turn that off.
One, two, three, four, five. She has me now. Yeah, can she? Who am I talking to there? You can talk back to me, please.
Hi, can you hear me okay?
I can hear you perfectly. Thank you very much.
You're welcome.
I will slap my audio operator around a little bit. He turned some things off, which turned you off, unfortunately. But we've got you back now, and I think we're happy days.
This is a French channel coming out from the French booth.
Welcome everyone.
Bien, bon. Bonjour, bienvenue à tous. Nous allons commencer tout de suite avant que notre président revienne de la réunion avec Fadi, Catherine et moi. Nous avons ici quelques points à aborder. Nous allons commencer donc et ensuite quand Olivier arrivera, il prendra la suite. Donc nous avons... Vous avez peut-être vu dans le programme d'aujourd'hui que nous allons présenter nos propres organisations à l'autre groupe parce que certains membres ne savent pas ne connaissent pas le rôle de l'autre groupe ou les activités de base de l'autre groupe. Donc, nous allons essayer de présenter ces activités que nous réalisons. Donc, si vous voulez, vous pouvez continuer à déjeuner. Et pendant ce temps, nous allons donc faire notre présentation. En ce qui me concerne, vous avez une copie de ma présentation. Et donc, j'irai assez vite. Et je vais faire ma présentation. Ensuite, on fera une session. Et Catherine fera la sienne. Ensuite, on fera une session de questions et de réponses. Bien. Apparemment, on n'est pas encore tout à fait prêt.
Good morning, good afternoon.
Bonjour, bonjour à tous. Et bonjour aux participants en ligne. Donc, c'est la session de ALAC et de la CCNSO du 24 mars de 12h20 passée de Singapour. Bonjour, donc la session de ALAC et du CCNSO, session conjointe. Donc, je vais attendre que ma présentation apparaisse, mais en attendant, je vais vous donner un rapide aperçu de ce qu'est notre rôle au sein de l'ALAC. Et pour simplifier, brièvement, je vais vous donner cette vision donc rapide des choses. Bien, deuxième diapo. D'abord, la question clé ici est d'où viennent les membres d'ALAC? Il y a 10 membres d'ALAC qui sont nommés par nos ALS, qui sont les structures at large. Et ce que nous avons ici, ce que vous voyez sur l'écran, c'est une carte qui représente les 5 régions. Nous avons environ 160 ALS actuellement qui sont donc répartis dans ces 5 régions. Je voudrais vous faire remarquer aussi que je viens de l'ALS qui se trouve en bas à droite de votre écran, et la région en marron représente la région d'Apralo, et donc une région très large et très très grande et très diverse. Très, très diversifié. Et alors, comment est-ce que ALAC est organisé? Nous avons 15 membres au sein d'ALAC. 10 de ces membres sont élus par les RALO. Et nous avons donc 5 régions. Et chaque région a 2 membres qui sont envoyés auprès de ALAC et un membre qui est nommé par le NOMCOM. Et donc, nous avons 15 membres dans notre équipe. Bien sûr, les 5 régions que vous voyez sur la carte, que vous avez vues sur la carte, qui comprennent l'Afrique, l'Asie-Pacifique, l'Europe, l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, lorsque l'on regarde la direction dans ce groupe, nous avons donc l'équipe de leadership de At-Large, le comité consultatif d'At-Large. Ce sont donc les membres d'ALAC plus les liaisons. Et les liaisons sont, par exemple, je suis la liaison du CCNSO. Alan est la liaison du GNSO, de la GNSO, pardon. Julie Hammer est la liaison de ESSAC. Et Marie Kutcher est la liaison de Point Mobi. Donc, ensemble, nous formons ce groupe. Et nous avons bien sûr les présidents des RALO et les secrétariats des RALO. Et au sein d'ALAC, nous avons le président et qui donc est le représentant de ALAC auprès du conseil d'administration. Et ensuite, nous avons un membre qui sera nommé donc mercredi probablement. Donc voilà. Bien. Donc le rôle d'ALAC maintenant. Ici, il y a une petite brochure qui est à votre disposition, mais je dirais que l'objectif de ce groupe d'ALAC est de fournir des conseils sur certaines activités qui sont liées aux utilisateurs individuels, aux organisations individuelles d'utilisateurs. Donc, je dirais qu'en quelques mots, c'est ce que nous faisons. Bien sûr, nous faisons tout cela à travers des groupes de travail hein, que je vais vous présenter. Vous les voyez ici sur l'écran. Ce sont des exemples des groupes de travail avec lesquels nous travaillons actuellement. Il y a toute une gamme de groupes de travail et dont les membres d'ALAC sont des participants. Hein. Mais je dirais que les ALS intègrent aussi et offrent aussi leur contribution dans les développements de politique de ces groupes de travail. Hein. Voilà, ici vous voyez un aperçu rapide du processus. Donc, ce qui arrive normalement, c'est que les déclarations de politique viennent des CCNSO et des autres SO au sein du système, arrivent à ALAC. ALAC met en place, décide si on a besoin d'un groupe de travail pour organiser ou pour rédiger une déclaration. Le groupe de travail travaille sur cette déclaration, revient ensuite, présente cette déclaration à ALAC qui décide s'ils ont besoin de continuer les consultations. Des consultations sont faites, on renvoie le document et ce document est approuvé ou pas. Et ensuite, il est renvoyé à la personne qui donc l'avait émis. Et donc, on dit c'est notre déclaration. Hein, c'est la déclaration de la consultation de commentaires publics. Voilà. Un exemple, donc ici, vous voyez le groupe de travail qui ont été donc créés pour un événement. Et en Atlas 2, hein, qui a lieu à Londres au mois de juin. Donc, pour que cela puisse avoir lieu, les ALS, ALAC et les ALS participent énormément et mettent en place donc tous ces, dans différents secteurs, hein, ces groupes de travail. C'est un effort de collaboration. Ce n'est pas seulement hein, qu'est-ce qu'on va faire à Londres. Hein, ce n'est pas une personne qui décide. Hein, c'est vraiment un travail inclusif. Et tous les RALO, toutes les ALS participent à ce travail. Donc. Bien. Je n'ai pas dit que le Atlas 2 est bien sûr le sommet d'Atlas qui et va réunir toutes les ALS du monde entier. Et donc, toutes les ALS sont invitées à participer à cet événement spécial qui aura lieu à Londres, donc au mois de juin. Donc, c'est un événement qui va donner lieu à une formation de compétences tout à fait spéciale qui vise à être plus inclusive puisque chaque ALS a été invitée et la plupart de ces ALS participent déjà à des groupes de travail de toute façon. Hein. Donc, ils participent déjà au travail avant le sommet. Et dans les groupes de travail, nous essayons aussi de nous assurer qu'il y a une représentation de l'ensemble des RALO, de façon à ce que ces groupes de travail ne soient pas seulement focalisés sur une région particulière, mais qu'ils représentent toutes les régions dans leur ensemble, de façon à recevoir la contribution de tout le monde. Donc, je vous montre ce groupe de travail en particulier parce que dans l'Apralo, dans la région d'Apralo, et parce que cette région est très diversifiée, hein, dans ce groupe de travail en particulier, Apralo est représenté par des ALS d'Inde, de Chine, d'Arménie, de Nouvelle-Zélande, de Hong Kong et de Bahreïn. Hein, c'est un exemple, hein, c'est un groupe de travail hein, dans lequel vous avez cette représentation hein, donc des différents RALO. Les autres RALO vont aussi être représentés de manière diversifiée, hein, bien sûr. Ensuite, et voilà, je voudrais conclure en vous montrant cette diapo, c'est un événement, donc notre showcase est un événement qui a été donc hébergé par Apralo pour célébrer la diversité et nous vous invitons tous à venir à participer à notre showcase qui aura lieu mercredi soir ou mercredi en fin d'après-midi. Et donc, je pense que ça sera intéressant. Vous aurez le droit, vous aurez aussi l'occasion de boire un petit verre. Et voilà. Et maintenant, Christina va continuer. va prendre la relève. Pardon, pas Christina, Catherine va prendre la relève. À moins que vous ayez des questions. Oui, j'avais une question, oui. OK. Est-ce que je peux... En attendant que ma présentation soit chargée, je voulais vous demander, vous avez dit que vous aviez une liaison qui était point Mobi. Ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi est point Mobi représenté ici? C'est une bonne question, dit-elle. Maureen Hillia reprend la parole. Heidi prend la parole. Point Mobi est une liaison auprès de l'AC et auprès d'Atlarge. D'accord, très bien. Donc maintenant, c'est Catherine Assata qui prend la parole. Je viens du CCNSO et après notre réunion de Buenos Aires, je me suis rendu compte qu'il était nécessaire d'élaborer davantage, de parler davantage de ce qu'étaient les CCTLD et de ce qu'était la CCNSO. Et par conséquent, une des choses que les CCTLD aiment vraiment, c'est qu'une taille n'est pas bonne pour tout le monde. Et c'est vraiment applicable ici au CCTLD et à la CCNSO, je dirais. Bien. Alors, nous travaillons tous ensemble pour nous assurer que l'Internet fonctionne correctement. Et nous pensons que les CCTLD jouent un rôle crucial dans justement ce fonctionnement de l'Internet. Comme vous le savez, nous avons... Théoriquement, on peut dire... que les domaines de premier niveau peuvent être divisés entre les domaines de premier niveau de code pays et les domaines de premier niveau généraux. Si vous regardez sur cette diapo, vous voyez qu'on a des nombres. Actuellement, on a les dernières données de IANA. Il y a 490 TLD qui sont délégués et 285 sont des CCTLD, c'est-à-dire des domaines de premier niveau de pays, code de pays. 249 sont latins. Il y a 36, donc, CCTLD qui sont non latins. Et on espère que l'on aura davantage bientôt de CCTLD non latins. Mais c'est actuellement le chiffre qu'il y a de CCTLD non latins. Cela va changer à mesure que... Ici, vous voyez les chiffres de l'organisation régionale du centre de CCTLD. Ce sont des chiffres qui sont un petit peu anciens, mais qui montrent quand même les principes généraux, la part de marché, la croissance de ces CCTLD. C'est quelque chose qui va changer de toute façon, puisque les nouveaux GTLD arrivent sur le marché. Mais cela montre bien la division des TLD, au niveau mondial. Point Mobi est une toute petite partie de cela. Vous le voyez ici. Les GTLD sont très nombreux. Il y a beaucoup de TLD. Et les 20 plus grands CCTLD représentent 70% des noms de domaines enregistrés et donc dans le cadre des CCTLD. Alors maintenant, comment est-ce que les CCTLD sont délégués? D'abord, il n'y a rien à inventer ici. Il y a des normes internationales et cela contient la liste des codes de pays, de deux lettres. Et ces codes de pays sont assignés à des pays en particulier ou à des territoires en fonction de ces normes. Donc, rien n'est ici. Et tout le monde peut évaluer cela. Il n'y a pas vraiment de besoin de processus trop long, tout est clair et c'est écrit dans les normes. Donc, notre meilleure pratique suggère qu'il faut avoir une gestion locale et une opération dans ces pays, en particulier dans ces territoires. Et l'objectif principal de ces CTLD est de servir la communauté Internet locale. Donc, les utilisateurs qui sont représentés ici. Chaque CCTLD a une politique propre. Certains CCTLD sont différents, bien sûr, des autres. Mais je dirais qu'en général, à l'exception des TLD, ICANN ne dit pas que les CCTLD doivent avoir ce type ou tel type ou tel autre type de politique. Chacun peut avoir sa propre politique. Certains CCTLD vont avoir une politique de résolution de différents optionnels, hein, ou différentes des autres, c'est optionnel. Donc, on pense que les CCTLD représentent donc ont leurs propres compétences techniques et nous nous considérons comme des experts de l'Internet. Donc, en ce qui concerne la politique de CCTLD, je dirais que pour la plupart, et la plupart des CCTLD sont gérés par des organisations à but non lucratif. Les modèles d'enregistrement, les modèles de gestion peuvent être différents, hein, n'ont pas toutes les mêmes systèmes. Et on a des modèles de bureaux d'enregistrement enregistre, on a des enregistrements directs, d'autres s'agissent des modèles mix. Il y a 4 CCTLD régionaux, organisations de CCTLD régionaux, et beaucoup de CCTLD choisissent de se joindre à ces organisations qui sont AFTLD, APTLD, CTLD Center et LACTLD. De toute façon, tous les CCTLD ne sont pas des membres de ces organisations régionales. C'est un choix volontaire. S'ils veulent, ils peuvent se joindre à ces organisations. La même chose que pour la CCNSO. De nouveau, je dirais que c'est une organisation volontaire. Actuellement, il y a 148 membres dans cette organisation. 148 CCTLD ont décidé donc de se joindre à la CCNSO. Et à nouveau, je dirais que tous les CCTLD qui sont des membres des organisations régionales ne décident pas tous de se joindre à la CCNSO, hein. Et peut-être vice-versa, tous les CCTLD qui sont des membres de la CCNSO ne se joignent pas aux organisations régionales de leur propre région ou n'appartiennent pas à ces organisations régionales. Bien. Alors, que font les membres de la CCNSO? D'abord, ils vont élire un conseil. Ils vont aussi élire 2 membres du conseil d'ICANN. Les membres vont voter des politiques, la résolution de ces politiques. Ces membres vont participer au groupe de travail et à l'organisation des réunions. Donc, ces organisations sont pour les membres qui, donc, réglementent tout ce conseil. Bien. Donc, ici, notre idée, c'est que pour chaque région d'ICANN, il y en a 5, hein, pour chaque région d'ICANN, donc, il y a 3 conseillers. Cela veut dire qu'il y a 15 conseillers qui sont élus par les CCTLD. Et en plus, nous avons 3 conseillers qui viennent des NOMCOM, 4 observateurs qui viennent des organisations régionales. Chaque organisation régionale est représentée. Et puis, nous avons bien sûr des liaisons qui viennent d'autres organisations. Donc, et contrairement à d'autres conseils que vous connaissez, le conseil de la CCNSO a 2 rôles principaux. Rôle administratif, rôle d'organisation du travail de la CCNSO et un autre rôle qui est le rôle de représentation, rôle représentatif. Actuellement, nous nous réunissons avec ALAC et nos conseillers représentent la CCNSO. Mais toutes les décisions majeures sont prises, non pas par le conseil, mais par les membres, par ses membres. En ce qui concerne ICANN, les CCTLD, comme vous le voyez, vous l'avez vu ce matin, les CCTLD dépendent vraiment des fonctions IANA, sont des organismes qui dépendent des fonctions IANA et la CCNSO, ils appartiennent à la CCNSO, beaucoup de CCTLD contribuent financièrement à ICANN et aux réunions d'ICANN très souvent, et les réunions d'ICANN sont tenues dans des pays en particulier et les CCTLD sont très impliqués dans l'organisation des réunions d'ICANN au niveau financier aussi, hein. Et bien sûr, certains des CCTLD échangent des lettres avec ICANN, sur certains accords. Donc voilà, ce serait un petit peu notre activité. Hein. Quand je dis qu'une taille ne correspond pas à tout le monde, ce que je veux dire, c'est qu'il y a différents CCTLD, il y a différentes organisations, il y a différentes choses, et la CCNSO est différente des autres organisations d'ICANN. Donc, il faut en tenir compte, c'est important. Lorsque vous demandez au Conseil de prendre des décisions, par exemple. Bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions maintenant? Oui, allez-y. Eduardo Diaz prend la parole. J'ai une question. Vous avez dit que vous développez des politiques pour la CCNSO. Ces politiques, est-ce qu'elles s'appliquent aussi une fois que vous les établissez? Est-ce qu'elles s'appliquent, pardon, aussi aux personnes qui ne sont pas membres de la CCNSO? Oui, les CCTLD sont des membres de la CCNSO et les politiques ne s'appliquent qu'aux membres de la CCNSO. Les autres CCTLD peuvent choisir de ne pas appliquer ces politiques. Et de nouveau, je dirais que si un CCTLD, ce n'est pas obligatoire d'être membre de la CCNSO pour toujours non plus. Hein. Donc les CCTLD peuvent décider de... S'ils ne sont pas d'accord avec la CCNSO, par exemple, ils peuvent décider de quitter la CCNSO. Je n'ai pas entendu parler de cas de ce type, hein, de cas de CCTLD qui quitte la CCNSO, mais théoriquement, c'est possible, hein, ils peuvent le faire. Donc, et une autre question d'Eduardo Diaz pour donc appartenir à la CCNSO. Il faut payer ou c'est gratuit? Non, vous n'avez pas besoin de payer, c'est gratuit, dit Katrina. Sataki. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eduardo, dans le sens de votre question, nous appliquons volontairement ces politiques puisque nous sommes dans la CCNSO volontairement. Nous avons certaines caractéristiques qui sont très liées à la situation locale des CCTLD. Donc, parfois, nous sommes d'accord avec les politiques, mais parfois, les politiques ne doivent pas être appliquées dans ce CCTLD en particulier, parce qu'il y a certaines choses au niveau local qui pourraient entrer en conflit, hein, avec ces politiques de la CCNSO. Par conséquent, nous les appliquons volontairement, si nous le voulons. Merci beaucoup. Très intéressant. Les CCTLD, oui, comme vous l'avez dit, appliquent les lois qui existe au niveau local. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, donner vos noms lorsque vous prenez la parole? Merci. Bien. Evan, vous avez la parole. Bien. Evan Libovitch prend la parole. Je voudrais poser une question. Comme vous le savez, nous sommes ici à ALAC et nous devons théoriquement représenter l'intérêt des utilisateurs finaux individuels. Par conséquent, je vais informer les personnes qui travaillent ici avec moi, hein, que je ne sais rien du système de nom de domaine. Et une des choses, hein, qui apparaît, c'est une question de confusion. Les gens, lorsqu'ils utilisent l'Internet, ne savent pas si quelque chose est générique ou si quelque chose est de code pays. Et donc, il y a des fois, les gens ont des fois l'impression que tout est géré au même endroit. Est-ce qu'il existe un type d'information ou est-ce qu'il existe quelque chose qui permettrait à un utilisateur final de dire, voilà, cela est géré par ICANN, cela n'est pas géré par ICANN, cela est géré au niveau interne. Est-ce que c'est pas vraiment une question de contrôle, c'est une question d'information. Comme ça, lorsque l'on a, par exemple, un TLD, on comprend ce qui dépend d'ICANN ou pas. On comprend ce qui est sous le contrôle d'ICANN et ce qui ne l'est pas. Bien. Brian Holland de .ci et CA est président de la CCNSO. Donc, nous, je ne peux pas parler de votre point de vue, mais si vous rentrez sur le site Internet d'ICANN, vous allez trouver les parties contractées et ou contractantes et des explications de ces différentes parties. Le site Internet de YANA a aussi une liste des opérateurs CCTLD donc, et des TLD. Donc, si vous rentrez dans sur le site de YANA, vous allez trouver tout ce matériel. Et oui, donc, ayana.org, sur ce site ayana.org, vous allez trouver ce matériel. Mais ce que vous allez trouver, c'est les TLD et vous allez trouver, vous allez savoir s'ils dépendent de s'ils sont des codes pays ou s'ils sont génériques. Hein. C'est tout ce que vous allez trouver. Donc, un utilisateur final ne va pas être informé des différences d'abord pour commencer. Hein. C'est ce que j'ai cru comprendre dans votre question. Hein. Il y a une liste, hein, mais on n'a pas vraiment ici, là, dans cette liste, vous n'avez pas trouvé la différence. ALAC a, si vous venez de la CCNSO, est-ce que vous pouvez lever la main pour que je puisse vous identifier, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez une question? Je suis Rolof Meyer de Point.A. À partir du moment où un utilisateur final connaît YANA et ICANN, il va connaître la différence entre le GTLD et le CCTLD, par exemple. Hein? Bien. Merci, Garage Brun, président de Naralo. Je pense qu'il y a un problème. C'est un problème de communiquer aux utilisateurs finaux de ces, à propos de ces différences. Ça me rappelle un petit peu la façon dont YANA suit les contrats des différents CCTLD, les contacts des différents CCTLD. Lorsqu'on nous a, par exemple, on nous a annoncé qu'on envoie une carte à ces CCTLD, par exemple, pour confirmer les contacts de ces CCTLD. C'est une méthodologie hein, qui a été mise à jour, puisque nous rentrons dans une nouvelle ère de système de contrôle de la part des multiparties. Des parties prenantes. Voilà. Je me demandais d'où et où était passée ma propre carte de Nouvel An. Donc, je viens de Point.ca. Je pense que c'est un peu plus solide que cela. Hein. Il y a un processus par lequel les opérateurs de CC sont validés en termes de s'ils sont les gestionnaires corrects de ces CC données. Donc, il y a des politiques en place qui sont spécifiques hein, pour légitimiser ce gestionnaire de CC, pour savoir si c'est le gestionnaire correct. Hein. Donc, c'est pas seulement une question de carte de vœux de fin d'année. Hein. Ça a dû changer. Moi, j'ai vu les documents, concernant ce. Je n'ai pas vu les documents concernant ce processus. Holly. J'apprécie ce qui a été dit tout à l'heure, dit Holly Reich. Excusez-moi. Ce qui a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire que chaque région, chaque domaine local est responsable des politiques de son propre code pays. Mais le fait est que nous avons quelque chose qui s'appelle la CCNSO au sein d'ICANN. Alors, comment est-ce que vous considérez votre rôle en termes de gouvernance? Quelque chose, une entité séparée, souveraine. Comment est-ce que vous considérez le rôle d'ICANN dans ce cadre, hein, puisque vous avez donc des organisations souveraines. Vous vous occupez d'organisations qui sont souveraines et indépendantes. Si l'on parle de code pays individuel et de politique locale, je vous dirais qu'il n'y en a pas. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez dire votre nom? Rolf Meyer, de Point.NA. et peut-être on peut s'assurer et des fonctions, il y en a, mais pas de rôle politique. Donc, est-ce que je peux demander, est-ce que je peux demander à la CCNSO s'ils n'ont pas de rôle dans la gouvernance autre que donc ces cartes de vœux de nouvel an? Rolf Mayer reprend la parole. C'est pour ça que je parle de politique locale. À la CCNSO, lorsqu'on parle de politique, ce sont des politiques internationales qui affectent tous les CC, par exemple les aspects IDN, les aspects techniques. Je pense que c'est de ça que je parle. Et il est clair que l'on ne parle pas de niveau local, mais en termes de discussion, les discussions que vous avez, ce que vous couvrez, ce que vous attendez, hein, la réponse que vous attendez en termes de discussion, hein, lorsque l'on identifie donc ce contrôle au niveau mondial. Je pense que le meilleur exemple, c'est l'IDN, la version IDN des codes pays, c'est-à-dire des CC. Je suis Bart Bosrin de la CCNSO. J'appartiens aux équipes de soutien à la CCNSO. La portée des politiques de la CCNSO est très limitée. Et cela, si vous êtes dans la salle, cela concerne ce que l'on appelle les relations transactionnelles au sein de la CCTLD ou au sein des CCTLD. Cela arrive dans la base de données de Yana. Et l'exemple est la politique IDN qui concerne la sélection d'une chaîne IDN CCTLD. Cela est la portée politique de la CCNSO. Le deuxième point, la CCNSO fait aussi ce que certains d'entre vous, comme membres, sont des observateurs. C'est ce qu'on appelle le cadre d'interprétation qui concerne la délégation et la redélégation des CCTLD en général. Et de nouveau, c'est une question de transaction au niveau de Yana. Et ce que vous voyez ici, et c'est qu'il s'agit de la façon dont la politique de CCNSO est structurée. Et c'est un processus très lourd. Jusqu'à maintenant, il y avait seulement deux politiques dans la CCNSO. La première était donc les statuts, ses propres statuts, et qui visait plutôt la façon d'apprendre à le faire. Et deuxième, c'est le PDP, qui a pris 6 ans. Et pendant ce temps, nous savions cela. Nous avons, pendant ce temps, ce que nous appelons la méthode accélérée, le système accéléré. Et dans le développement de politique de toutes ces IDN, nous apprenons de ce que nous avons fait et nous apprenons de la mise en œuvre de ce processus accéléré. C'est pour cela que d'IDN accéléré, c'est pour ça que c'est long. Hein. C'est vraiment une question ici que Yana, la question Yana, pour en revenir à vos questions concernant la politique de la CCNSO et des individuels et des CCTLD individuels, en principe, ce que l'on voit au sein de la GNSO, hein, c'est quelque chose et des politiques de la GNSO, c'est exclu. Les CCNSO n'ont aucun pouvoir, aucun droit politique, hein, et d'enregistrement et au niveau des CCTLD individuels.
Only because you've only just walked in, Keith.
Okay, juste parce que vous venez d'entrer, oui. Oui. Keith Davids. J'étais au fond de la salle, en fait, mais je me suis rapprochée de la table parce que ce sujet m'a attirée. Et on aurait pu dire au sujet de la CAN qu'il y a une dépendance du cadre de développement de politique pour les CCTLD qui est presque impossible pour que l'ICANN en fait prépare des politiques du haut vers le bas. Et on a une politique, et s'il y a une décision de politique que la CCNSO prend, si les CCTLD ont des problèmes qui entrent en conflit avec les lois locales dans leur pays, ils ont une exemption et ils ne doivent pas respecter la politique. Et c'est probablement très important de comprendre ces principes. Mais il faudra qu'on le considère à mesure qu'on avance dans ce nouveau monde de Yana. Olivier lève son carton, alors il prend la parole. Merci, c'est Olivier qui parle ici. Le problème, Monsieur David, c'est que vous répondez à votre propre question avant d'attendre la réponse. Ce qui est bien, c'est que j'ai une deuxième question qui était un suivi pour Evan et sa clarification par rapport au CCTLD. J'ai compris qu'avec une liste de CCTLD, de GTLD, etc., tous sur le site de Liana. Est-ce qu'il y a une liste de CCTLD qui montre quels CCTLD font partie de la CCNSO et quels CCTLD ne sont pas des membres de la CCNSO? Je sais qu'il y a une liste de membres de la CCNSO, mais je ne sais pas s'il y a une liste qui montre ceux qui ne sont pas des membres. David, encore? Non. Il n'y a pas une liste définitive où l'on voit tous les membres et les non-membres de la CCNSO. On ne voit pas tous les CCTLD. Je ne pense pas que ça corresponde à la base de données de Liana. Je pense que si vous êtes raisonnable, on a des bases de données qui vont et viennent. Je pense que le dernier exercice avait 246 SKC comme CCTLD et 146 ou 147 étaient des membres. Et cela représente 99,9% ou quelque chose comme ça des membres. Donc les 100 qui ne font pas partie de la CCNSO, les 100 CCTLD qui ne le sont pas, en fait, ne sont pas affichés. Merci, dear Maureen. On a une question d'Adobe? Oui. Ah non, c'est Eduardo. Oui, Eduardo ici. C'est une curiosité. Est-ce que à la CCNSO, vous avez un programme de sensibilisation pour atteindre ces CCTLD qui ne font pas partie de la CCNSO pour qu'ils s'intègrent? Oui, ici Byron Holland de .ca. En fait, non, on n'a pas un programme de sensibilisation active. On l'avait considéré comme possibilité. Et on essaie de faire la sensibilisation, mais il n'y a pas de programme en place. Tout le monde peut nous rejoindre, tous les CCTLD, mais on ne cherche pas à avoir de nouveaux membres, en tout cas. Oui, Olivier? Ah, pardon, c'est Maureen Hillard qui parle. Oui, allez-y, pardon. Je suis à Bouibou du registre .tg. Pour ce qui est de la sensibilisation, les organisations membres qui font partie de la CCNSO, comme APTLD par exemple et les autres, ils font des programmes de sensibilisation pour le renforcement de compétences et ils collaborent avec l'ICANN, la NCSG et l'ISOC. Merci Maureen. C'est encore Olivier Crépin-Leblond ici. Malheureusement, j'ai pas été là pour le début de la réunion, donc j'espère ne pas répéter ce qui a déjà été dit, mais la communauté at large est composée de 160 structures at large et on est répartis partout dans le monde. Et ce qu'on a fait avec l'ASO il y a quelques années, en fait, a été d'essayer de voir quels étaient les pays qui avaient des membres de l'ASO dans le pays et les pays qui avaient des structures at large locales dans le pays. Et je me demande si ce ne serait pas facile de faire cela. Vous pourriez le faire pour voir s'il y a des pays où la CCNSO n'a pas de membres, mais où la LAC a des membres, et vice-versa. On cherche à avoir un seul ALS dans tous les, au moins un ALS dans tous les pays au monde. C'est notre but parce qu'on essaie de couvrir toute la planète pour avoir les contributions des utilisateurs Internet de partout dans le monde. Donc on a besoin d'avoir cette diversité. Et je ne sais pas si vous cherchez activement l'identification de ces moyens pour intégrer davantage de membres à la CCNSO, mais c'est une offre que je vous fais. Oui, Keith. Merci Maureen. Ici Keith Davidson. C'est une proposition intéressante. Il devrait peut-être avoir davantage de discussion entre nous. Je ne dirais pas que nous ayons eu un programme actif pour chercher à à avoir davantage de pays, mais on n'a pas de politique fermée non plus. En général, on le remet aux organisations régionales qui travaillent avec nous, avec leur propre programme de sensibilisation, pour encourager la participation. Mais il y a aussi des groupes, pour compléter cette idée de la base de données Indiana et des membres de la CCNSO, il y a aussi des CCTLD qui pourraient faire partie de l'ICANN à travers des leaders ou à travers un programme de responsabilité et qui ne veulent pas faire partie de la CCNSO. Donc c'est aussi un peu un mystère. Merci Keith, dit Olivier. Juste pour te répondre, on a vu il y a quelques années que bien sûr nous avons aussi une structure de RALO autour du monde, parce que le monde est divisé en 5 régions, donc dans les 5 régions on a des RALO, et nos arrières sont divisées en régions, ça diffère un peu entre les différentes régions, mais spontanément on a vu qu'on a maintenant des RALO qui signent des mémorandums avec leur propre registre internet local pour davantage de collaboration et une collaboration entre pays. Donc s'il y a besoin de différents pays, etc., les RALO peuvent collaborer ainsi et vice versa. Donc peut-être qu'on n'est pas là encore, mais c'est un exemple de ce que font les organisations qui participent à la LAC. C'est une organisation qui, en fait, au sein de l'ICANN, n'était pas prise en compte, au moins dans le passé, mais nous, on fait attention à ces RALO, et avec la fonction YANA, maintenant, on y parle, mais c'est un travail qu'on a fait, vous devriez peut-être explorer cela dans l'avenir. Mais en général, les régions ont beaucoup d'intérêt ici, et c'est aux régions de travailler dessus. Maureen Hilliard, merci Olivier. Don Hollander vient de me rappeler que l'une de ces collaborations, l'un de ces partenariats sera signé mercredi entre APRALO et APTLD. Oh pardon, c'est avec APNIC. On a deux MOU, deux protocoles d'entente, l'un avec APNIC et l'autre avec APTLD. Donc, on vient de commencer à chercher à avoir une collaboration, vous voyez. Je vous remercie beaucoup de vos questions et de votre intérêt. Et notre présentation d'aujourd'hui était très bonne, donc merci, Katrina. Je crois que cette discussion va nous aider à coordonner notre groupe. Merci Maureen, c'est Olivier Crépin-Leblanc ici. Avant de continuer avec le reste de la semaine de réunion d'ICANN, je voulais vous faire passer une invitation. Byron et le reste, vous êtes tous invités à venir au sommet d'Adlarge à Londres. On a 160 structures Adlarge qui vont venir à Londres. Ils viendront pour un week-end de séance plénière et puis pour une semaine d'ateliers et d'interaction avec la communauté. Donc, je t'enverrai un email, Byron, pour que tu viennes parler à notre communauté, pour que tu interagisses avec eux et pour qu'on ne fasse pas que seulement de décrire ce qu'est la CCNSO, mais pour les engager dans les discussions. Alors, vous êtes tous bienvenus, bien sûr. Toutes les réunions Adlarge sont ouvertes et le sommet Adlarge ne sera pas différent de cela. Bien sûr, il sera ouvert pour tous. Et c'est tout pour l'instant. Merci. Merci. C'est Byron Holland qui parle. J'apprécie votre offre et je serai content de venir. Maureen Hilliard, voilà, c'est la fin de ma séance. On va revenir au début, en fait, de l'ordre du jour parce qu'on a oublié de présenter les dirigeants. Bon, bienvenue tous. J'espère que ça s'est bien passé et merci. Merci, au revoir, dit Olivier.
This meeting has been adjourned. Thank you.
La réunion est close. Merci.